Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. C'est la 90e ce soir, émission de Mon Paris Sport. Vous voyez, la 100e, ça sera pour la saison prochaine. En tout cas, on va encore vous gâter hein, avec du foot dans la dernière partie de cette émission. On a une belle journée foot aujourd'hui entre le prochain transfert de Kylian Mbappé, la liste de Thierry Henry, Emmanuel Macron à Clairefontaine. Donc, on aura l'occasion eh bien, de commenter toute cette actu foot. On parlera aussi du journal des sports, puisque notre ami Alexandre, que je salue, a passé pratiquement toute sa semaine, malheureusement, avec le Kawai à Roland-Garros. Ça va, Alexandre ? Bonne soirée.
Bonsoir, Philippe. Bonsoir ouais, à tous. Ça va très bien.
Vous n'avez pas trop froid sur Roland-Garros ? Ça va ?
Ça va.
Ouais, ça va. Bon,
on a pu se couvrir.
Cette semaine, tu pourras mettre les lunettes et le bob, je crois. Hein.
Voilà. Oui, en plus, il y a eu des grosses surprises voilà, cette semaine.
C'est ça. Bah, justement, tu nous en parleras. Et puis, on va saluer celle qui suit régulièrement la Flamme Olympique, qui nous parlera aussi d'un forum qui s'est déroulé donc mardi au CNOSF. Hein. C'est pas très loin d'ici. Eh bien, c'est Vanessa. Bonsoir, Vanessa.
Bonsoir, Philippe. Bonsoir ouais. À tous.
Forum sur la Flamme Olympique. Hein.
Exactement.
Vanessa, vaste problème. Hein.
Oui,
vaste
très débat. Intéressant avec ouais. Plusieurs tables rondes. Ça a bien débattu et c'était vraiment très intéressant.
Voilà. Alors, comme on aime aussi collé à l'actualité, mais parler aussi de tous les sports, eh bien, aujourd'hui, on va recevoir un club du 13e et du 14e, club de badminton, qui est le Good Minton, c'est ça, représenté d'abord par son président Jean-Marie Nas. Bonsoir Jean-Marie.
Bonsoir et oui. Merci de nous recevoir.
Bah de rien, c'est un plaisir. Hein. Et puis vous êtes accompagné, alors je vais essayer de bien le dire, c'est ZKIQ, c'est ça hein ?
Oui, c'est ça.
Ah, j'ai bien dit, ça va. Ouais. Bon, alors vous allez nous présenter votre club. Tout d'abord, depuis combien de temps dans le badminton et pourquoi président du club ? C'est arrivé comme ça, par hasard, non ?
Alors moi, pourquoi dans le badminton ?
Oui.
Alors moi, je viens du tennis, en fait.
Oui.
Donc le tennis, c'était mon sport d'enfant. Mmh. Et puis, quand on arrive sur Paris, c'est un peu plus compliqué de trouver des clubs de tennis. Ou en tout cas, c'est aussi moins accessible financièrement. Hein,
il
faut être honnête, c'est un sport assez coûteux.
Parce que des cours, il y en a partout quand même.
Oui, alors je joue Paris. Du coup en loisir sur les cours en location par la mairie de Paris.
D'accord.
Mais du coup, j'ai décidé de m'inscrire dans une association de badminton. J'avais un peu joué au lycée, comme tout le monde, je pense à peu près. Mais je n'étais pas du tout expert dans ce sport. Mmh. Je ne pense pas l'être encore aujourd'hui, mais voilà. Du coup, on a des techniques de tennis au badminton qui, en fait, sont à proscrire.
Ah donc, oui, c'est ça qui est intéressant.
Oui, c'est tout un challenge. Mmh. Donc voilà, moi, ça fait depuis 2017 que je suis inscrit chez Good Minton
oui.
Et président depuis 2 ans. Avant ça, j'étais le secrétaire pendant 2 ans aussi. Mmh. Avec l'envie de m'impliquer dans l'association, dans l'associatif, et puis toujours apporter quelque chose à l'édifice, même si l'association, elle vit en fait sans nous. Enfin, elle vit grâce aux adhérents et aux adhérentes,
oui, mais
elle
existe depuis longtemps. Il faut fédérer tout ça, quoi.
Il faut fédérer. L'association aussi, elle grandit beaucoup, puisque donc elle a été créée en 1992, mais aujourd'hui, on est à 275 membres.
D'accord,
donc, chaque année, on a un peu augmenter les effectifs, mais on atteint un plafond hein, de toute façon qu'on ne peut pas non plus dépasser puisque on a des créneaux avec un certain nombre de terrains et donc on veut aussi que chaque personne qui vient sur les créneaux puisse quand même jouer le plus longtemps possible.
Oui, et c'est une fonction passionnante, président. Hein. On préfère être
fonction
acteur de sa vie que témoin.
Oui,
hein.
Alors c'est
pas un bon message pour Vanessa.
C'est pas vraiment sa vie, c'est finalement plutôt la vie de l'association.
Oui,
donc
oui.
C'est un rôle très assez politique malgré tout. Hein, donc beaucoup de contacts avec la mairie de Paris.
Oui. Oui.
Et donc, comme vous l'avez dit, on est sur finalement 2 arrondissements, oui. Les 13e et 14e.
Mais les subventions, vous voulez toucher de qui ? Du 13e ou du
14e ? On ne touche pas de subventions.
Aucune ?
Non, on vit sur les fonds d'inscription donc, de nos membres. Alors, on n'a pas de subvention à l'année. En fait, pour être totalement honnête, depuis cette saison, justement, moi, mes objectifs, c'était d'aller chercher des subventions pour mener à bien des projets.
D'accord.
Donc, on en a obtenu 3 jusque-là. Notamment dans le cadre du Festival des Fiertés. Alors, c'est un festival qui est organisé par les mairies des 12e, 13e et 14e arrondissements.
D'accord, donc vous êtes vraiment tout près. Hein. C'est des départements limitrophes.
C'est des
arrondissements limitrophes. Hein.
Il a eu lieu il y a quelques mois.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est environ 2 semaines sur le mois de novembre.
C'est ça.
C'est plutôt piloté à la base par le 14e, mais les 12e et 13e se sont joints à l'événement. Et donc, dans le cadre de cet événement, on a organisé un Blackminton. Donc, le Blackminton, pour expliquer très rapidement, même si ça peut-être se comprendre.
Blackminton noir.
Eh bien, voilà, vous avez résumé
dans le noir. Fait.
C'est du badminton dans le noir. Donc, tout le monde porte une tenue fluo ou blanc, on va dire, blanche. Les délimitations des terrains sont recouvertes en fait de scotch ou de laine, quelque chose de fluo pour bien délimiter justement le terrain. La bande du filet également.
Ça doit faire
les volants sont, ce sont des volants plastiques du coup jaune fluo. Enfin voilà. Et donc il y a une lumière en fait qui permet de faire ressortir toutes ces couleurs fluo.
Ça doit faire drôle.
Voilà. Donc on le fait en mode vraiment fun, hein. C'est pas du tout un tournoi, il y a de la musique parce qu'on avait fait venir un DJ.
Ah bah c'est indispensable quand même, hein.
Oui,
quand on joue comme ça sous la nuit. Avec,
c'est du sport en boîte de nuit.
C'est sympa. Alors, vous êtes accompagné de Jigai, je l'ai dit. Hein.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a aussi passionné dans le badminton? Pourquoi ce club et pourquoi ce sport?
Alors, pourquoi ce club? Alors, moi, il y a 2 ans, en vrai, le sport, je connaissais encore pas du tout. Je pratiquais aucun sport, je cherchais comme tout le monde... à pratiquer une activité physique pour retrouver ma ligne, quoi.
Oui.
Et je me sentais pas spécialement à l'aise de pratiquer du sport avec mes amis hétéros dans un milieu hétéro, puisque je suis une femme trans.
Oui.
Et du coup, je suis tombé sur le club par hasard en cherchant sur Google, quoi, tout simplement.
Mmh. Oui, parce que on va dire, vous êtes un club...
exactement. Hein, on est donc une association
LGBT,
de badminton,
hein, c'est
LGBT+.
Ça. Voilà.
Exactement.
Donc ça veut dire aucune discrimination.
Aucune
tout le monde a le droit.
Tout le monde peut s'inscrire. Alors, peut malheureusement prétendre à s'inscrire parce qu'on reçoit plus de demandes qu'on a de places.
Ah oui,
c'est un peu la problématique, je pense, de beaucoup d'associations et de clubs sportifs parisiens. Donc l'année dernière, par exemple, on avait pris un peu moins de la moitié des demandes qu'on reçoit.
Ah oui, parce que il y a combien de clubs de badminton dans le 13e à peu près? Parce que alors j'ai vu qu'il y avait les Givrés, mais c'est une émanation de chez vous.
La SBG, donc l'association sportive des badistes Givrés, là pour le coup c'est une association, mais c'est un club. C'est-à-dire qu'il est affilié à la Fédération française de badminton.
Vous ne l'êtes plus depuis 2017.
On ne l'est plus depuis 2017.
Pourquoi? C'est un choix volontaire ou...
Et en fait, c'était pour créer une émanation de différentes associations LGBT+, de badminton sur Paris et d'en faire effectivement un club qui est donc l'ASBG et qui existe depuis 2017.
D'accord.
Voilà, donc qui est aussi localisé dans le 13e. Alors je peux pas vous donner le chiffre des adhérents et eux sont affiliés, font de la compétition.
Vous êtes en relation entre vous?
Oui, on organise beaucoup d'événements ensemble.
En commun,
fait. J'ai parlé du Festival des Fiertés, on l'a co-organisé en vrai avec eux. Et puis, sur le Blackminton. Et puis, on a un autre événement là, qui arrive dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques. La mairie du 13e en fait, organise un village au parc de Choisy. Et donc nous on a répondu à cet appel d'offres de la ville de Paris.
Ah bah c'est bien, notre ami Iman va être content.
Grâce à Iman notamment qu'on a obtenu effectivement une subvention. Et donc notre objectif, nous, c'est on va animer l'espace sur 2 heures quotidiennes entre le 6 et le 16 août.
D'accord.
C'est encore en cours de construction, mais avec des animations, de la participation, des jeux, etc.
Petite question, pour le Blackminton, est-ce que le fait que ce soit joué dans le noir, c'était pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité, ou est-ce que ça avait un autre but, peut-être sensibiliser aussi au handicap?
La fantaisie, peut-être, non?
C'est plus fantaisie qu'autre chose. Mmh. C'était intégré dans le cadre du Festival des Fiertés. Donc, c'était ouvert à... Finalement, on avait ouvert pas que à nos membres. On avait ouvert à tous citoyens et citoyennes parisiens et parisiennes, donc, pour venir apprendre un sport de manière ludique.
Voilà, ça permet de découvrir aussi.
Exactement. On peut avoir une image du sport, parfois, qui est... peut être lié à, à l'enfance, à l'adolescence, et qui peut avoir été pour certaines personnes un peu traumatisante. Et là, c'est l'objectif de réconcilier, on va dire, le sport et le côté ludique.
Ouais, mais le badminton, c'est un petit peu une image d'un sport de plage, quand même.
Voilà,
dire.
Alors ça, que, c'est ouais, l'image.
Ouais, alors que quand c'est de la compétition, ah c'est pas pareil. Hein.
Ça n'a rien à voir.
Ah ouais, ouais. Ouais.
Et, je me posais aussi une question. Est-ce que... que ce soit le badminton ou un autre sport d'ailleurs, vous avez encore le sentiment qu'aujourd'hui, c'est quand même pas forcément évident pour les personnes LGBTQ+, de pouvoir accéder à des clubs et de se sentir bien, surtout, j'ai envie de dire.
Oui, je pense que d'y accéder, c'est peut-être pas le plus compliqué, mais c'est après, effectivement, de se sentir intégré et inclus dans un club, on va dire, non LGBT+.
Oui.
C'est aussi pour ça que ces associations, elles existent, en fait, parce que des personnes se sentent peut-être exclues ou déconnectées. Et l'objectif pour nous, c'est d'inclure tout le monde et de jouer tous et tout ensemble.
Oui, en fait. Alors ça tombe bien, justement. C'est la question que je vais poser à Jikai. Auparavant, il y a eu des refus dans d'autres clubs quand vous êtes venu taper à la porte?
Ah bah c'était le premier club auquel j'ai tapé à la porte.
Ah d'accord.
J'ai eu vraiment un coup de chance. Et du coup, à partir de là, j'ai pu me construire une vraie culture sportive. Puisque très rapidement, j'ai pu progresser en niveau et participer à des compétitions LGBT et décrocher mes premières médailles. Et d'accord. C'est devenu une vraie passion aujourd'hui pour moi.
Alors, on va dire, vous êtes uniquement sous la fédération maintenant LGBT, hein, depuis donc 2017. Hein,
oui, voilà. Tout à fait. On est dans donc, un... plus à la fédération sportive LGBT+, donc qui n'est pas une fédération, enfin qui a reçu l'agrément du ministère là récemment, il y a un peu moins d'un an je crois.
Ah ouais.
Mais qui n'est pas une fédération effectivement dédiée à un sport comme peuvent l'être les autres associations, qui a beaucoup plus une vocation justement à...
Donc ça veut dire que vous ne pourriez pas participer à des compétitions ouvertes par d'autres clubs de la Fédé, quoi. Par exemple, vos amis Givré, vous ne pourriez pas participer à leur compétition.
On pourrait faire quelque chose ensemble,
oui, voilà,
mais
c'est
qui
ça.
Serait non officiel. Et donc du coup, toutes les compétitions qu'on peut nous organiser, c'est-à-dire on fait des tournois internes, on fait des tournois interassociations avec d'autres associations LGBT+, donc sur Paris, il y a Acrobat, Cité-Bad et Bad Attitude, donc on crée en fait
ça, c'est des émanations aussi, c'est d'autres clubs.
Oui, c'est des émanations. Ouais. La première qui est arrivée, c'est Acrobat, qui est une émanation de membres de Goodminton.
Oui.
Et puis ensuite,
et
Acrobat a créé Bad Attitude, etc.
Pourquoi ils sont
partis?
Parce qu'en
fait, il y avait déjà à l'époque, donc ça c'était au début des années 2000, un manque de place.
Ah,
et
ça,
en fait, comme effectivement Goodminton est localisé plutôt dans le sud de Paris, pour des personnes habitant plutôt dans le nord ou l'est parisien, c'était un peu aussi éloigné de leur lieu d'habitation ou de travail.
Parce que ceux qui sont, vous l'avez dit, que vous êtes un peu plus de 275. Ouais, 275. C'est uniquement de tous les arrondissements parisiens ou ça vient de beaucoup plus loin même, des départements franciliens avoisinants?
Alors la majorité évidemment est localisée dans le 13e et 14e arrondissement, en toute logique, hein, puisque
ouais, bien sûr, c'est voilà, déjà c'est... plus facile. Ouais.
Mais non, bien sûr qu'on a des membres qui viennent de différents arrondissements. Moi-même, j'habite en banlieue, donc on a des personnes qui viennent de banlieues plus ou moins proches. Alors c'est très anecdotique, on a quelques personnes qui sont localisées en province, mais je pense que c'est il faut pas en faire une généralité. Mais non, c'est vraiment, on a des personnes qui habitent dans le 17e, et dans le 17e, le club peut-être pour eux le plus proche, c'est Goodminton.
Oui.
Ça dépend aussi du lieu où on travaille.
Oui,
parfois
bien sûr.
On peut habiter dans le 17e et effectivement travailler.
Non, c'est peut-être les autres clubs ont peut-être pas la même philosophie aussi, cette fameuse inclusion qui vous est chère.
Pour nous, effectivement, c'est important et on souhaite que les membres qui rejoignent l'association, effectivement, aient cette philosophie-là. Donc, on met tout en place, en tout cas, pour que à l'entrée, il y ait effectivement adhésion, non pas que à l'association, mais aux valeurs de l'association. Ouais. Et puis également tout au long de la saison sportive, pour qu'il n'y ait pas non plus.
Oui, parce que l'inclusion, ce n'est pas que le côté sexe, hein, c'est aussi la religion, les races et les. Voilà.
Oui, en fait,
c'est ça,
c'est finalement de ne pas s'y intéresser qui est le mieux.
Ouais.
Après, on est aussi très sensible à l'inclusion sociale, c'est-à-dire qu'on propose.
Aussi, c'est important.
Voilà,
c'est ça aussi.
L'adhésion, elle est à demi-tarif en fait pour les personnes qui sont en étudiante ou en situation de chômage.
Ah oui.
Voilà. Donc on propose la.
C'est aussi l'inclusion.
Ouais, exactement. Ah oui, exactement. Ça, ça passe aussi par là. Toute l'année aussi, on vend donc des tubes de volant grâce à notre partenaire Plus de Bat qui est aussi localisé dans le 13e.
Mm-hmm. Ah bon? Où?
Oui, près de la place d'Italie.
D'accord. Bah c'est bon à savoir pour ceux qui nous écoutent ou pour Vanessa qui est devenue une fan du badminton. C'est bon, elle peut aller faire un tour, acheter
exactement.
Du matériel là-bas.
Ils ont beaucoup de choix et puis du coup c'est un de nos partenaires. Maintenant c'est notre partenaire depuis 4 ans. Mmh. Ça se passe très bien avec eux. C'est eux qui nous ont justement fourni pour le badminton. Et puis donc, on négocie avec eux donc, des tarifs. Et nous-mêmes, l'association, on vend ces tubes de volant déjà subventionnés. C'est-à-dire qu'on prend en charge une partie des frais. Donc, du coup, l'adhérent ou l'adhérente paye moins cher. Mmh. Et même chose, chaque année, on crée pas un maillot, mais on propose à la vente des maillots. Avec le logo Goodminton dans le dos pour que en fait chaque membre puisse se sentir intégré à l'association aussi par ce biais-là.
Donc si on veut venir vous rejoindre, il faut attendre maintenant la rentrée, il faut attendre le mois de septembre.
Exactement.
Ou alors on ne pourra pas le faire, c'est tôt, vous êtes déjà complet, vous êtes déjà fou.
Non, pas encore. Non, là on est dans la phase de réinscription, oui. C'est-à-dire que les membres actuels sont en cours de réinscription. Ce qui nous permet, nous, de savoir en fait quel est le nombre de places disponibles qu'on peut proposer. Mais après, en fait, on ouvre sur une période, très honnêtement, assez courte sur les 15 premiers jours de septembre.
D'accord.
Qui
vous
est aussi la période des formes. Voilà, l'année dernière, on a participé
14e.
Au forum du 14e seulement.
Oui, d'accord.
Et l'année d'avant, on avait participé au forum du 13e qui était dans le centre commercial Italie 2. Mmh. Mais qui demande une présence assez importante sur des jours de semaine où malheureusement nous ne sommes que des bénévoles.
Bah
donc
oui.
Nous travaillons et on ne peut pas se rendre disponible aussi souvent malheureusement.
Mmh.
Et plus, on participe aussi au forum organisé par la Fédération Sportive LGBT+, qui organise un forum de rentrée également.
Oui. Alors on a versé, je crois me souvenir, un club de natation qui était aussi LGBT. Il y a les libellules, je ne sais pas si vous connaissez. Mais il y a quelques temps, on les avait reçus à notre micro. La tranche d'âge ?
Alors, la moyenne d'âge des membres, c'est 37 ans. Oui. Mais la tranche, alors, nous, en fait, on a une règle dans nos statuts qui nous impose que la personne soit majeure ou émancipée. Donc, on n'accueille pas d'enfants.
D'accord, ok.
En tout cas, pas de mineurs non émancipés. Et du coup, ça va de 18 à... je ne vais pas révéler l'âge de la personne la plus âgée, mais on a des membres qui approchent les 70 ans.
D'accord, ok. Le prix de la cotisation, c'est combien ?
Alors, cette année, elle va passer à 70 euros, donc en plein tarif.
Ça va.
Et donc, demi-tarif à 35 euros pour les personnes en situation de chômage ou étudiante.
C'est quand même génial.
Oui, c'est bien. Alors, vos créneaux, c'est quand et
alors,
où vous avez dit vous partagez entre le 13e et le 14e?
Exactement. On a des créneaux donc dans nos créneaux annuels, hein, puisque les créneaux d'été, c'est quelque chose à part. Nos créneaux annuels sont répartis entre les deux arrondissements. Donc, le mercredi, on a un créneau dans le 14e au lycée François Villon, donc, qui est un créneau de 2 heures. Le jeudi, on est aussi dans le 14e, cette fois à Mouchotte. En fait, on change de gymnase à chaque fois. Le vendredi, on n'est pas très loin d'ici, au gymnase Thomas Mann. Donc, c'est un collège, il me semble, qui est juste à côté, d'un créneau donc, de 17h30 à 20h. Et le samedi, alors, on a la chance de partager un créneau avec une de nos associations sœurs, Acrobade. Cette fois, c'est dans le 10e. Et donc, on a un créneau étendu de 13h30 à 19h30. Et là, le dimanche, c'est full badminton. Donc, on est de 10h à 14h30 au gymnase Grand Moulin, qui est en fait un gymnase de l'université Paris Diderot. Et l'après-midi, à Jean Prévost, qui est donc vers la station de métro Glacière, de 14h à 18h.
Oui.
Ça fait une vingtaine d'heures par semaine.
Mais ce n'est pas trop compliqué comme ça pour tous les pratiquants de devoir changer de gymnase à chaque créneau ou même au même d'arrondissement, quoi. On perd un petit peu ses points de repère.
Ça crée plus des habitudes.
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, une personne va se... personne qui va habiter dans le 13e va naturellement aller plutôt dans les créneaux du 13e et puis va prendre l'habitude d'aller à ces créneaux-là et vice-versa. Et donc, du coup, ça crée plutôt, je dirais, oui, des tendances ou des habitudes chez chacun et chacune. Mais après, on organise régulièrement des convivialités en dehors du badminton pour essayer de fédérer, de regrouper tout le monde.
L'inclusion, c'est ça aussi. Hein.
Exactement. Hein, voilà. Et alors, c'est l'image de marque de Goodminton.
Alors, Gigaël, ça se passe comment un entraînement? Vous qui avez découvert le sport, comment ça se passe?
Sur les créneaux, on pratique du jeu libre, essentiellement en double.
Il y a un peu de physique quand même.
On ne fait pas de préparation physique particulier.
Pas de tour de gymnase, pas de mouvement de gym, rien.
Alors ceux qui ont déjà un peu l'habitude, ceux qui connaissent comment s'échauffer, c'est toujours mieux de s'échauffer un peu avant la séance. Après, sur les créneaux, on pratique essentiellement du jeu libre. Ouais. Mm-hmm. Après, une fois ou deux fois par an, on propose des cours pour les débutants en début de saison. Mm-hmm. Et du coup, grâce à Plus de Bad, on bénéficie aussi de stages pour les intermédiaires et joueurs confirmés sur des week-ends.
Oui, en deux ans, la progression, elle est énorme.
Pour moi, plutôt, puisque je pratique en moyenne 4 à 6 heures par semaine.
et outre le fait de l'inclusion, ça apporte quoi sur un plan personnel? Un bien-être tous les jours, on se sent bien
Ah oui, bien sûr, ça fait partie de l'épanouissement de soi, ça permet de se reconnecter et prendre... ça permet de reconquérir son rapport au corps.
Mmh. Jean-Marie, est-ce qu'il y a un profil type pour jouer au badminton?
Non, je dirais non.
C'est bien pour, pour une fille, pour un garçon.
Alors, par rapport, si on a l'image effectivement du sport qui se joue dans un bois ou sur la plage, c'est un peu éloigné de cette image-là. C'est beaucoup plus cardio que ça.
Oui, parce que
c'est pour moi entre le tennis et le squash au niveau cardio. Donc, ça demande quand même effectivement d'avoir un cardio de base. Après, il s'entraîne, il se pratique même, je dirais. Mais sinon, non, il n'y a vraiment pas de profil type. On a, nous, dans notre association, alors on est une représentation masculine plus forte.
Oui, c'est la question que j'allais poser. Il y a plus de gars que de filles. Hein.
Voilà, c'est environ un tiers, deux tiers. Ah, oui. Et on a des personnes qui s'identifient en non-binaire. Mm-hmm. Pour moi, toute personne peut apprendre et prétendre pouvoir jouer au badminton. Ouais.
Et pour beaucoup, ça a été un sport de reconversion.
Oui, pour avoir discuté effectivement avec plusieurs de nos membres, c'est effectivement pas le sport natif. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, ça se développe un peu plus au niveau compétition, mais c'est un sport qu'on apprend à l'école, mais qu'on n'apprend pas forcément dans des clubs. Alors ça, je pense que ça a beaucoup évolué. Je parle plutôt des profils un peu plus âgés comme moi. Mais sinon, c'est aussi pour ça que je pense que c'est un sport qui s'apprend des fois un peu tardivement pour la plupart des gens. Et malgré tout, on peut constater effectivement que des progressions assez... forte si, évidemment, comme tout sport, on s'implique, on vient souvent, on s'entraîne. Et puis, je pense que d'ajouter la partie compétition, même si elles ne sont pas officielles, ça booste, les personnes aussi pour se dépasser. Et c'est aussi ça, pour moi, le sport, en tout cas, c'est de savoir parfois dépasser ses limites.
Bien sûr. Et on se baisse souvent, non? Au badminton.
Alors ça arrive.
Oui.
On a ce qu'il faut dans chaque gymnase pour évidemment combler si malheureusement ça se produit.
C'est quoi les foulures, les tendinites? Oui, il n'y a pas de fracture quand même.
Dans le pire des cas, heureusement ça reste relativement rare. Mm-hmm. En fait, c'est que effectivement, malheureusement, on le fait pas assez, je pense. Mais il faut absolument s'échauffer. C'est vraiment très naïf ce que je dis là puisque c'est valable pour tout sport. Mais comme c'est un sport qui est quand même beaucoup sur, comme je le disais, sur le cardio et sur le fait de faire des déplacements qui peuvent être très, sur le coup, en fait, comme ça. Ça peut vite arriver de se blesser, et notamment, cheville, genou. Voilà. Donc, on ne le souhaite pas. Hein, mais...
ouais. Alexandre, tu as déjà tenté le badminton. Ne me parle pas de la plage, là.
Non, mais c'est surtout à l'école. C'est,
à l'école justement.
C'est à l'école, c'est un des sports qu'on pratique le plus. Mais après, sinon, en club, non, jamais.
Oui. Et justement.
Il faut venir à une séance d'essai.
Oui,
pourquoi pas. Vrai, c'est bien le badminton, moi j'aime bien.
Donc, alors, justement, est-ce que pour bien populariser ce sport, il manque pas un petit peu une médaille olympique?
Alors, parce que fatalement. Ça serait bien. Il me semble qu'il y a quand même une progression chez certains joueurs et chez certaines joueuses qui va peut-être le permettre, espérons-le. Je pense aussi qu'il manque une représentation. Il y a des sports qui sont quand même plus diffusés, on va dire, à la télévision, dans les médias. Ouais. Et le badminton ne l'est pas encore. Ouais. Ça reste.
Mais c'est
un
peut-être
peu
parce qu'il manque, j'allais dire.
Des figures, peut-être.
Oui, voilà,
aussi.
Des figures. Alors, justement, Vanessa, elle avait couvert les Yonex internationaux. Hein. C'était donc à la Adidas Arena. Et là, c'était fabuleux quand même.
Oui,
ça,
bah,
ça attirait du monde et puis ça attirait même des médias.
Exactement, il y avait vraiment beaucoup de médias, il y avait quand même le gratin mondial du badminton, c'était, et pour une première expérience, c'était vraiment très intéressant. C'est aussi avec des événements comme ça, par exemple le Test Event des Jeux Olympiques et avant les JO, cette compétition elle est régulière chaque année, mais je pense que c'est aussi comme ça, en plus avec l'Adidas Arena, qu'on fait aussi venir du monde et qu'on permet aux gens de découvrir. Il y a plusieurs campagnes aussi qui ont été mises en place. Et moi, vraiment, d'y aller, ça m'a permis vraiment de découvrir ce que c'était. C'était très intéressant. Et là, on attend avec beaucoup d'espoir de voir ce que pourront faire nos Français. Aussi bien, pour l'instant, on a une petite interrogation hein, sur en double homme, si ce sera les frères Popov ou bien la barre corvée. Et puis les autres qui ont été qualifiés. Il y a eu des beaux résultats aussi en double mixte sur les internationaux. Et c'est quand même des résultats qui sont quand même assez récents et, puis, et qui sont en continu. Donc, c'est ça qui est intéressant, qui est bien. Ça donne quelques espoirs. Mais c'est vrai que la concurrence, elle est énorme, notamment la concurrence asiatique. Et on a aussi des petites surprises, c'est-à-dire, par exemple, l'Espagnol, Garcia, qui permet aussi à des pays comme l'Espagne, des pays européens, de se hisser au sommet de ce sport. Et ça fait une représentation en plus.
Oui, parce que c'est un sport qui vient d'Asie. Non, Pakistan, Asie, Inde. C'est les sports numéro un là-bas.
Alors, vous me le prenez.
Pourquoi ça s'appelle badminton? Je vais vous le dire. Parce que ça a été ramené par les soldats anglais quand ils étaient en Inde, puisqu'avant, l'Inde était une ancienne colonie britannique. Et ils ont rapporté ça en Angleterre. Et pourquoi badminton? Parce qu'ils ont commencé à y jouer dans la ville de Badminton, qui est une ville en Angleterre.
J'avais
fait ma petite enquête. J'ai plus le nom exact du sport indien, mais c'est dérivé d'un sport indien et ça a été ramené en Angleterre. Et puis, comme on le sait après, il y a beaucoup de sports qui sont issus de différents pays qui ont été aussi rapportés en Angleterre. Et comme on le sait, l'Angleterre, c'est un grand berceau des sports. Et après, ça s'est diffusé.
Oui. Voilà. Est-ce que le matériel a beaucoup changé dans votre sport?
Alors, depuis que je pratique, non.
Elle est comment la raquette en alu maintenant?
Oui, alors elle est... Alors, elle peut avoir un poids un peu différent selon... ça dépend aussi des techniques qu'on veut. Il y a le cordage qui peut jouer également.
Comme au tennis, quoi.
Exactement. C'est un peu le même principe. Alors, les cordages peuvent aussi se casser assez facilement si, évidemment, c'est très tendu.
Même avec le petit volant?
Oui.
Ah bon?
Oui, on joue en volant en plume et malgré tout, alors les plumes peuvent aussi, elles, souffrir un peu au bout d'un moment.
Ça, à la rigueur, je comprends mieux.
Voilà. Mais les cordages aussi, puisque... selon la frappe de la personne, après, ça dépend vraiment du cordage de base qu'on a mis, mais c'est un cordage très tendu qui va permettre normalement de frapper plus fort et donc d'aller plus vite, mais va aussi se casser plus facilement.
Et les raquettes, il en faut combien? 2-3 par saison? Il y a un côté fétichiste aussi?
Je sais pas. Non, je dirais 2 à minima, parce qu'effectivement, comme je vous disais, le cordage peut vite se casser, donc c'est bien d'en avoir une autre. Après, personnellement, moi, j'ai vraiment 2 raquettes qui sont très différentes, justement, selon le jeu que je veux pratiquer. Si
d'accord.
C'est plus de la précision.
Ah, c'est ça qui est intéressant. Ouais.
Ou si c'est plus de la puissance. Mm-hmm. Et donc, c'est intéressant, justement, d'avoir. Et là, c'est pour ça que plus de bad a tout son rôle, c'est que. C'est vraiment un magasin spécialisé qui ne fait que du badminton.
Ah ouais,
voilà.
C'est rare
qui ne fait
quand
pas
même,
d'autres
hein.
tennis, c'est très
quand
rare.
Même,
et effectivement, ça nous permet justement d'aller vers eux dès qu'on a besoin de conseils. En fait,
comme ça, ça permet de ne pas arriver en terrain inconnu. Et quand on arrive, on ne sait pas à quoi choisir. Et puis j'imagine aussi qu'au cours de la pratique, on évolue en fonction...
Exactement. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à aller effectivement faire évoluer son matériel avec sa pratique.
C'est quand même mieux d'aller chez un spécialiste.
Oui, tout à fait.
D'expérience dans d'autres sports.
Oui, voilà. C'est le cas aussi, je pense. Oui.
Mais vous avez un entraîneur aussi pour conseiller comme ça?
Non,
c'est vous qui vous auto-conseillez?
Exactement. Il y a beaucoup de conseils qui proviennent des membres les plus anciens ou les plus forts qui, du coup, aussi jouent le rôle d'accueil en début de saison pour intégrer les personnes. On essaye donc de mettre en place des cours pour les débutants en début de saison pour qu'ils aient quand même vraiment les bases du badminton. Mmh. Et puis, pendant la saison, c'était une nouveauté cette année, on a mis en place 2 stages sur une journée de week-end pour des personnes qui veulent vraiment aussi progresser et en faire de manière un peu plus intensive. Oui, après, il y a des stages qui se font sur...
On parlera des organisations que vous faites parce qu'effectivement, j'ai vu que vous faisiez pas mal de stages quand même. Hein.
Oui, on essaye en tout cas de développer ça et justement pour des personnes qui veulent vraiment partir sur des bases solides, mais aussi progresser avec des bases et pas... ça peut être tout bête, hein, mais comment on tient sa raquette en fait? C'est pas de la même façon en coup droit et en revers.
Non, c'est sûr.
Donc c'est des choses que des personnes ne savent pas.
Mais c'est-à-dire que les stages, ils viennent pendant des vacances, des périodes scolaires, ça se passe
là,
comment?
Là, on l'a fait sur des dimanches.
Ah oui.
Après, c'est pas nous qui organisons directement, mais on propose aussi parfois des stages sur une semaine. Donc là, c'est vraiment du stage intensif. Alors qu'il ne se fait pas à Paris forcément, mais il y en a qui se font en banlieue parisienne ou alors...
Et c'est payant ça ou comment ça se passe?
Oui, c'est payant. Alors, j'ai pas les tarifs là en tête.
Et sinon, pour rester en équipement, c'est une bonne paire de baskets, alors, c'est important?
Oui, très adapté à la pratique en gymnase. Exactement. Ça, on essaye d'être vigilant sur ça parce qu'effectivement, la blessure peut venir d'un mauvais équipement, notamment au niveau des chaussures. C'est pour ça qu'à nouveau, on conseille vraiment d'aller voir un spécialiste qui peut conseiller sur les chaussures adaptées à la pratique, le matériel bien entendu, et puis qui peut apporter des conseils un peu tout au long effectivement de sa carrière du badminton.
Allez, on va marquer une petite pause musicale. Hein, Idée noire, c'est pas notre cas, avec Bernard Lavilliers et puis Nicoletta, puis on se retrouve dans quelques minutes. On parlera du forum de la trêve olympique. Hein. Vaste débat, on en parlera tout à l'heure avec Vanessa.
Éteint le plafonnier, éteint dans la cuisine, mais la sécurité. Un couloir, une porte, un lit, c'est la nuit. Quelques pistes pour dormir, je sais plus où je suis. Un store noir, une porte, un lit, c'est l'ennui. Rien à faire pour l'amour, mais ne dis pas toujours. Sur un mauvais câble, dans la paranoïa, pas de marchand de sable. Je vois en panoramique urgent et désirant une blonde décapitée dans sa décapotable. Cauchemar, highway, road trip, fumée noire, une vente vorace tue au fond d'un couloir. T'en sors pas, cafard, bad trip. Idée noire, avalée par l'espace au fond d'un entonnoir. Je veux m'enfuir
quand tu es dans mes bras.
Je veux m'enfuir.
Est-ce que tu rêves de moi?
Je veux m'enfuir.
Tu ne penses qu'à toi.
Je veux m'enfuir.
Tout seul tu finiras.
Je veux m'enfuir
quand tu es dans mes bras.
Je veux m'enfuir.
Yes. tu rêves de moi.
Je veux m'enfuir.
Tu ne penses qu'à toi.
Je veux m'enfuir.
Tout seul tu finiras.
Je veux m'enfuir, je veux partir. Je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir. Je veux pleurer, je veux rire. Je veux m'enfuir, je veux partir. Je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir. Je veux pleurer, je veux rire. Je m'enfuis, je veux partir, je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir, je veux pleurer, je veux rire.
Voilà, puis c'est officiel, Mbappé vient de signer 5 ans au Real Madrid, on en reparlera tout à l'heure avec donc, notre ami Stéphane, l'info vient de tomber. Les Jeux Olympiques, vous allez suivre ça avec beaucoup de passion, c'est bien les Jeux sur Paris, parce qu'on entend quelques critiques en disant « ouais, notre mois d'août va être chamboulé, va être perturbé ». Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Moi, je trouve que c'est très bien. Pour
une fois tous les 100 ans.
Oui, c'est ça. Ça reste un événement exceptionnel. Et puis, c'est aussi... Et je trouve que la ville de Paris met en place ça, une manière d'intégrer les associations et clubs qui font vivre la ville, en fait, au quotidien. Et ça, c'est bien parce que je trouve qu'on... Voilà, ils nous intègrent dans des animations, des... Voilà, ils nous proposent des choses qui sont en lien avec les Jeux Olympiques et Paralympiques. Ouais. Et voilà, c'est une belle récompense, une belle reconnaissance en tout cas de la ville vis-à-vis de ses clubs et associations.
Et vous avez pris des billets, non ? Vous avez eu des billets, non ? Vous avez eu des épreuves ?
Moi, je n'en ai pas eu.
Ah ouais ?
Mais peut-être par un autre biais.
Voilà, c'est ça. Hein ? Q, pareil ?
Oui, moi j'ai deux places.
Ah bah bien,
pour quel badminton.
Ah bah vous voyez ? Donc, à l'Adidas Arena, là-bas.
Tout à fait.
Ça va être fabuleux, là où, justement, il y avait les Yonex. Alors, les Jeux Olympiques, eh bien, naturellement, on n'arrête pas d'en parler. Et il y avait notamment, mardi, à la Maison du Sport, donc au CNESF, en partenariat avec le Comité français pour le fair play, Vanessa, un forum sur la trêve olympique. Alors, qu'est-ce qu'il en est sorti de ce forum ?
Alors exactement, donc ce forum qui était organisé autour de plusieurs tables rondes avec différents acteurs du sport et puis aussi des spécialistes de l'analyse géopolitique également. Il y avait 3 tables rondes, il y avait une première table ronde autour de la politisation du sport, une deuxième autour de la jeunesse et l'éducation pour le sport et une troisième sur la question des athlètes russes et biélorusses aux Jeux Olympiques et le boycott des Jeux Olympiques. On a parlé aussi des athlètes russes et biélorusses, on a été plus loin sur les différents conflits géopolitiques avec différentes interrogations, des craintes évidemment. Et c'est là qu'en fait, notamment, le débat était assez intéressant puisqu'on a confronté l'idée de la trêve olympique et les idéaux avec quand même beaucoup d'espérance. Il faut porter cet espoir quand même de paix parce que sinon on abandonne. Et puis la réalité géopolitique avec certaines manifestations qu'on a déjà pu voir, certains événements qui forcément posent la question de la réalité qui se mêle toujours aux Jeux Olympiques. Et ce n'est pas les premiers Jeux, dans toute l'histoire des Jeux Olympiques.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Sur tout de même la question sur la jeunesse et l'éducation par le sport. Il y a eu des débats extrêmement intéressants.
C'est vrai que le public a été très, très réactif en cours de ces débats.
Exactement. Beaucoup de questions, beaucoup de débats. Et puis sur la jeunesse et l'éducation pour le sport, il y avait aussi la question du sport à l'école avec qu'est-ce qu'on pouvait améliorer.
Vaste débat.
Qu'est-ce qui était déjà en place. Et puis la politisation par le sport, c'était aussi toutes ces questions, comment on faisait influence de tel ou tel pays, etc. Il y avait plusieurs invités, donc notamment le directeur de recherche à l'IRIS, Lucas Aubin, et puis plein de des membres du CNOSF. Il y avait David Lapartien, il y avait Vincent Pasquini, le responsable coopération de Paris 2024, Pierre Rabadan, l'adjoint au maire pour les sports à la mairie de Paris. Et puis, on avait aussi Alexandra de Navacelle de Coubertin, l'arrière-arrière-arrière-nièce de Pierre de Coubertin. Et puis, il y avait l'héritage laissé par Pierre de Coubertin qui a aussi été mis en lumière et débattu.
Alors, on va écouter quelques interviews hein, qu'on a pu donc vous ramener. Alors déjà, un de nos confrères, il était venu à ce micro. C'est une icône de la télévision. Hein, et il va fêter son, il va commémorer, fêter son 62e Tour de France cet été. Il a vécu 22 JO hiver-été confondus. C'est Daniel Potra. On lui a demandé ce que donc, la trêve olympique représentait pour lui. Bon, Daniel Potra, donc ce forum sur donc la trêve olympique.
Ben, la trêve olympique, hélas, elle n'est plus respectée. Dans l'Antiquité déjà, il y a eu quelques bavures. Mais bon, depuis la rénovation des Jeux olympiques, malheureusement, en 1916, et puis en 40 et 44, hein, les guerres l'ont emporté sur l'olympisme. Mais il ne faut pas se décourager quand même, parce que il est dommage finalement qu'on n'en reparle que tous les 4 ans, parce que c'est une pensée que l'on devrait avoir tout au long des années. Et je crois que le rôle du président du Comité international olympique est important. Jacques Godet, directeur de l'équipe et du Tour de France, l'avait qualifié de pape de l'olympisme. Et c'est vrai que quand la voix du pape s'élève du Vatican, elle porte dans le monde entier. Et là, je regrette un peu que la voix du président du comité olympique, l'allemand Thomas Bach, ne porte pas suffisamment. On ne l'a pas entendu évoquer cette trêve olympique. Et j'espère que le 23 juin, à Paris, à l'occasion du 130e anniversaire du congrès de la Sorbonne qui a redonné vie aux Jeux olympiques modernes grâce à Pierre de Coubertin, mais j'espère que le 23 juin, un mois avant l'ouverture des Jeux de Paris, le président du CIO, Thomas Bach, adressera son message au monde, urbi et orbi, pour demander une trêve olympique, une cessation des combats partout dans le monde au mois de juillet et au mois d'août.
Oui, parce que vous, vous avez vécu 22 Jeux olympiques qui avaient été, des problèmes politiques. Vous en avez rencontré, notamment les points américains en 68.
Oui, ça, c'était des manifestations qui profitaient de la médiatisation des Jeux olympiques pour faire entendre leur message. Mais j'ai surtout lutté, alors que j'étais influent dans mes commentaires à la télévision dans les années 80 pour éviter le boycott des Jeux de Moscou. Et finalement, seuls les anglo-saxons l'ont boycotté et la France, fort heureusement, sous la conduite de Valéry Giscard d'Estaing et de Jean-Pierre Soisson, le ministre des Sports, les Français ont décidé de participer aux Jeux olympiques. Et c'était bien parce que les Jeux olympiques, il faut en profiter, c'est le plus beau rassemblement de la jeunesse du monde. C'est ce que Pierre de Coubertin avait qualifié de fête quadriennale du printemps humain. C'est la plus belle expression que j'ai jamais entendue dans ma vie de commentateur sportif.
C'est pas un vœu pieux quand même, cette trêve olympique ?
Pas forcément, parce que le monde du sport est capable de rassembler. On l'a vu avec les deux Corées qui étaient sous la même bannière il n'y a pas très longtemps aux Jeux olympiques. Ça peut déclencher quelque chose, même s'il n'y a pas partout, mais même s'il y avait un seul petit conflit entre deux petits États quelque part dans le monde qui s'arrête grâce aux Jeux olympiques, ce serait déjà ça de gagné.
En tout cas, nous, on va vivre un bel été sur Paris. Ils vont être grandioses, ces Jeux.
Les Jeux olympiques, c'est toujours grandiose. Hein. Mais je dois dire d'ailleurs que je préférais les Jeux olympiques à Mexico, à Tokyo, à Sydney ou à Séoul ou à Pékin, parce que c'est aussi un moyen de découvrir le monde, de découvrir non seulement tous les champions avec le village olympique, mais aussi de découvrir un pays, de découvrir une population. Et le plus beau souvenir que je garde peut-être d'une clôture olympique, olympique, c'est à Séoul en 1988. Il y avait dans toute la ville des banderoles pour accueillir, depuis le début des Jeux, pour accueillir toutes les délégations et tous les touristes venus du monde entier. Et ils étaient nombreux à Séoul en 88. Et puis pendant la cérémonie de clôture, pendant les 4 ou 5 heures que tout cela a duré, toute la ville a été transformée. Toutes les banderoles d'accueil ont été supprimées et remplacées par d'autres banderoles. Merci d'être venu. On espère vous revoir bientôt. C'était un message vraiment, et je ne sais pas comment ils ont fait pour transformer la ville comme ça en 5 ou 6 heures. Mais après nous avoir accueillis par des messages de bienvenue pendant 3 semaines, eh bien là, c'était revenez nous voir, on a été heureux de vous recevoir partout. Il y avait des messages comme ça, et ça remplissait de joie, ça prouve que tout le monde était heureux. Et pendant les Jeux Olympiques, il faut que tous les Français soient heureux.
Merci Daniel. Voilà, merci à notre ami Daniel Potrin. Un petit commentaire, Jean-Marie, c'est possible, là où j'y caille, la trêve olympique, vous y croyez?
Ah. Pour l'espérer. Bah, hein. Sujet, ouais. Ça semble compliqué dans le monde actuel, mais ce serait bien. Espérons-le.
Bah oui, espérons-le.
Ah, j'espère aussi, mais je ne suis pas très optimiste non plus, malheureusement.
Allez, deuxième témoignage, c'est celui de Frédéric Thirier, l'ancien président de la Ligue de football professionnel. Il est très investi maintenant donc, auprès du CIO et du CNE. Et du CNOSF. Alors, on écoute son opinion sur ce que lui pense de la trêve olympique. Frédéric Thirier, Frédéric, comment vous avez trouvé ce forum concernant la trêve olympique ?
Ah, moi, je suis un compagnon de route du comité olympique et du comité pour le fair play et pour un sport sans violence, surtout aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, on l'a vu sur le péage de l'autoroute avant la finale de la Coupe de France. Je voudrais dire un mot sur ce point parce que, en tant que amoureux du foot et dirigeant bénévole pendant 25 ans dans le football, j'ai honte de ce qui s'est passé. La solution, je le dis très clairement, c'est la répression, la sanction.
Mais ça n'est pas le cas du football.
Alors, oui, mais le football aujourd'hui est malheureusement en mauvaise position sur ce point. Comme disait mon ami Giroud, la répression ne gêne jamais les honnêtes gens. Donc, il faut sanctionner et, j'ajoute, des sanctions individuelles, pas des sanctions collectives qui ne servent à rien. Des sanctions individuelles, ça s'appelle l'interdiction de stade que j'avais obtenue à l'époque du gouvernement et du Parlement. Or, on ne les applique pas suffisamment en France. Après, c'est vrai qu'il y a eu des erreurs humaines dans ce dispositif qui ont conduit à ce que les cars se retrouvent à un endroit où ils ne devaient pas se retrouver. Mais ça n'excuse pas le comportement inacceptable de ces hooligans qui n'ont rien à voir et rien à faire dans nos stades. Donc, pour un sport sans violence, je me continuerai à me battre. Après, sur la notion de trêve olympique, oui, bien sûr, c'est un idéal merveilleux. Mais il faut être peut-être un peu plus sévère avec les pays qui ne respectent pas les principes fondamentaux de l'olympisme, c'est-à-dire la non-discrimination, suivant les opinions, le sexe, la race. Rappelez-vous que l'Afrique du Sud a été interdite de Jeux olympiques pendant 30 ans à cause de la politique d'apartheid. Or, aujourd'hui, en Iran et en Afghanistan, le sort qui est fait aux femmes de ces pays se rapproche beaucoup de l'apartheid. Est-ce qu'il ne faudrait pas que le CIO sanctionne ces pays? C'est la question que je pose et c'est ce que j'ai demandé avec mes amis de la Ligue du droit international des femmes. C'est ce que j'ai demandé au président du CIO.
C'est un long combat quand même.
Mais vous savez, il ne faut jamais cesser le combat. Je crois au sport, je crois dans les valeurs du sport, je crois que le sport peut rapprocher les peuples et les communautés, et il faut continuer à se battre et ne pas se laisser décevoir.
Comment vous allez vivre ces Jeux? Vous allez carrément vous investir?
Je suis déjà investi parce que je participe un peu comme militant à une opération qui est soutenue par le COJO, qui s'appelle Écris ton hymne. Ça consiste en quoi? Nous allons dans les écoles auprès des enfants de CM1 et de CM2 pour leur apprendre l'histoire des JO, les valeurs du sport et leur faire écrire dans chaque classe leur hymne pour les JO. Et tous ces hymnes seront officialisés et projetés sur la place de la Concorde. Donc je vous avoue que cette action me comble de joie, car ces enfants, donc qui ont 10, 11 ans, sont extrêmement réceptifs au discours sur le sport et les valeurs du sport.
Ça va être une très belle fête en tout cas.
Ça va être une très belle fête. En tout cas, je le souhaite de tout cœur. Et qu'effectivement, on cesse de dénigrer les JO. C'est une chance pour la France, c'est une chance pour le sport.
Voilà, le message est clair hein, du président Thierry, hein, Zikaï.
Oui, tout à fait.
Ouais. Allez, on va écouter maintenant la dernière interview. Bah, c'est celle du président du comité français pour le fair play, Jean-Pierre Mougin, avec qui on a fait un petit peu le bilan de la matinée, et puis qui nous parle aussi des prochaines actions donc, de son association. Jean-Pierre Mougin, 3 très belles tables rondes.
Absolument, très riche, avec du personnel de qualité, des intervenants vraiment au top, et très heureux d'avoir pu réunir cette brochette, et en particulier David Lapartien, le président du CNOSF et membre du CIO, qui a fait une introduction très forte, très riche, sur les valeurs du sport, sur la trêve olympique, et sur finalement ce qu'on attend de tous les participants, et surtout de tous les spectateurs qui viendront pour applaudir les champions. Et voilà, en espérant que des pays comme la Russie, comme la Biélorussie, comme la Palestine, comme l'Israël, tous ces pays seront applaudis lorsqu'ils seront là sur la cérémonie d'ouverture pour certains d'entre eux.
Et puis on a vu un public très réactif hein, sur les 3 tables rondes.
Public très réactif, beaucoup de bonnes questions. Je pense que les réponses ont été apportées. On ne rêve pas à la trêve olympique aujourd'hui. Avec 51 conflits dans le monde, ça a été cité, on ne rêve pas, mais si ça peut apaiser déjà un peu et faire en sorte qu'il y ait certains gestes là qui apparaissent pendant ces Jeux Olympiques, ben on aura quand même gagné notre pari.
Oui, c'est la question que j'allais poser. Qu'est-ce qui peut sortir de ce type de table ronde?
Ben, ce qui est sorti de cette table ronde, c'est qu'on a mis à niveau un certain nombre de personnes qui étaient présentes, mais aussi maintenant on va diffuser largement l'enregistrement de ces 3 tables rondes partout, l'ensemble du monde sportif, les journalistes et autres qui étaient présents en particulier, et donc on va pouvoir justement faire la promotion de cette Jeux olympiques et de la trêve olympique, et en espérant que ça serve d'exemple et que ça permette d'avoir des gestes forts tout au long de ces JO qui vont bientôt démarrer.
Oui, alors ces forums, ça fait partie des différentes actions du comité français pour le fair play.
Oui, ça fait partie d'une action qu'on fait chaque année sur un thème particulier. Cette année, bien sûr, cette année, donc avec ces Jeux Olympiques, c'était un thème tout trouvé sur la trêve olympique. Et donc cette année, c'était le thème. L'année prochaine, on ne sait pas encore ce que ce sera. Mais chaque année, on a un thème différent. Puis on a aussi notre belle cérémonie des Iris du sport chaque année, qui déroulera d'ailleurs ici même le 27 novembre prochain au CNOSF, où là, on espère mettre en avant justement tous les athlètes, mais aussi tous les dirigeants, les journalistes, tous ceux qui font le sport au quotidien et puis qui font la promotion des valeurs du sport au quotidien.
Et puis d'ici là, il y aura d'autres rendez-vous, notamment à l'occasion de la journée olympique le 23 juin.
Alors oui, le 23 juin, donc c'est une grande journée, hein, puisque c'est l'anniversaire de la déclaration de Pierre de Coubertin à la Sorbonne sur les Jeux Olympiques modernes. C'est une grande journée qui va mobiliser toute la France, tout Paris, et nous-mêmes, bien le 23 juin, sur les Invalides, on fera des sauts en parachute avec le comité français du fair play qui descendra avec son drapeau, mais également la Fédération française de tir à l'arc, et surtout Paris 2024 qui descendra avec son drapeau. Donc on est très heureux et on attend avec impatience cette journée.
Voilà, et pour finir après, bah, l'été sera beau, Jean-Pierre, on va vivre un fabuleux été.
Ce sera un fabuleux été pour le sport français et pour les nombreuses médailles que le sport.
Voilà, effectivement, on espère les très nombreuses médailles que le sport français donc, rapportera. Vous y serez le 23 juin, là, vous allez faire aussi une action pour la journée olympique, non?
Non, c'est pas prévu,
pas pour l'instant.
Non.
Bon, on va peut-être y penser un peu, non?
Ouais, ouais. Bon, on a déjà une belle action qui nous attend là au mois d'août.
Oui,
qu'on est
alors
en train
justement,
de préparer,
ouais,
effectivement,
ouais.
Dont j'ai parlé un peu tout à l'heure,
oui.
Sur le village olympique. Mm-hmm. Donc on le fait avec notre partenaire sportif et avec la SBG,
ouais.
Donc notre association sœur. Et voilà, on réfléchit justement un peu à la formule. Donc, ça sera initiation au badminton, évidemment. On va essayer de faire venir des personnes pour animer qui ont un bon niveau de badminton. Et puis, c'est ouvert à tout le monde. Donc, c'est aussi une belle manière de faire découvrir le sport en été, pendant ou juste après en tout cas les Jeux Olympiques. Mmh. Et puis de faire découvrir que ce n'est pas un sport de plage uniquement.
Alors justement, même si votre vocation c'est un sport d'inclusion, c'est un sport un petit peu plus porté sur le loisir, il y a quand même de la compétition.
Ah oui, tout à fait. Oui, hein? On en fait que ce soit en interne, donc avec d'autres associations.
Et ça va, les résultats sont bons?
Pas chez trop. Goodminton, oui, ça, si, il y a des médailles hein, quand même qui arrivent. Et puis il y a un gros tournoi qui est organisé chaque année donc par la Fédération sportive LGBT+ qui s'appelle le TIP, le tournoi international de Paris qui a eu lieu là du 17 au 19 mai pendant tous les ans en fait pendant le week-end de la Pentecôte. Mmh. Et donc il y avait environ je crois 380 inscriptions, en tout cas, pour participer au badminton. Donc, pas que Goodminton, hein, évidemment. Il y a des personnes d'Europe qui sont venues également. Et voilà, on a eu des médailles chez Goodminton. Donc, on est très contents et très fiers de ça.
Alors, on parlait tout à l'heure des blessures. Le mental, c'est aussi important.
Hein, on l'a
vu, vous venez du tennis, on voit qu'il y a des situations des fois qui peuvent se renverser. Hein. Il a vu ça, Alexandre, cette semaine sur Roland Garros. Hein. Il a vu ça.
Ça, c'est sûr.
Hein, il a vu des retournements de situation. Hein. C'est pareil pour badminton.
Oui, totalement. On peut tout à fait mener 20-10 et donc être à un point de la victoire.
Mais alors, on va rappeler les règles quand même. On va rappeler les règles.
Oui,
parce que le grand public ne le sait peut-être pas. Ça se joue en combien
alors,
de temps?
Ça se joue en 2-7 gagnants.
Voilà.
Mais ce sont des sets de 21 points.
Voilà, c'est ça.
Donc,
c'est ça.
Effectivement, on peut arriver à un troisième set s'il y a eu égalité au bout des deux sets. Ouais. Et c'est vrai que là, le fait
mais
d'arriver
y a pas tie-break,
au troisième set...
Il n'y a pas tie-break, on peut aller au bout, on peut aller à 30...
on peut aller jusqu'à 30 points, effectivement, qui est la limite. Mmh. Normalement, sinon, c'est 2 points d'écart dans le dernier set. Mais s'il y a toujours une égalité ou 1 point d'écart, on va jusqu'à 30.
Souvent, ça va jusqu'à 25 quand c'est assez serré. Et ce que je trouve palpitant, c'est vraiment des fois dans les derniers échanges ou même dans les premiers ou au milieu, quand c'est extrêmement serré, et puis là, on reprend la main et l'autre reprend la main. Et vraiment, il y a des échanges qui durent longtemps aussi, parce qu'il y a le temps de l'échange qui est intéressant. Des échanges qui durent longtemps et on est comme ça, on est en apnée. On est,
ça crée énormément de tensions. Je pense que c'est des situations qui peuvent se produire au tennis aussi, effectivement, puisqu'on est dans la période de Roland-Garros.
C'est quand même un public assez fair-play. On retrouve un petit peu des bonnes choses du tennis, par exemple. Let's go, Popov, let's go. Ça, j'avais entendu aux internationaux de badminton à Paris. Et on a quand même un public qui est calme. À Roland-Garros, Alexandre, tu ne diras pas le contraire.
Il se dissipe, le public d'ailleurs.
Et la directrice du tournoi a pris certaines décisions, pas d'alcool en tribune. Ouais. Et puis les arbitres rappellent alors les spectateurs. Parce que même s'ils manifestent leur enthousiasme, quand même des fois, ils perturbent les joueurs. Et c'est ça quand même qui pose problème. Et les joueurs aussi sont intervenus sur la question.
Alors, sur la durée des matchs, les matchs peuvent durer très longtemps. Donc, ça veut dire qu'il faut une belle condition physique. On peut perdre combien? 2-3 kilos dans un match?
Alors, je pense qu'on perd plus des litres d'eau aussi.
Ah oui.
Donc, parce que comme j'ai dit, hein, c'est très cardio. Et donc, on peut vite perdre beaucoup d'eau. Et donc, pensez à s'hydrater. Parce que c'est un sport qui est très exigeant. Et effectivement, quand on va jusqu'à un troisième set qui peut aller sur des points très serrés sur la fin... Il y a le mental, comme vous le disiez tout à l'heure, qui prend le pas des fois presque sur le physique.
Oui. Alors, avant de passer à la pause musicale, je voulais quand même, pour revenir sur la trêve olympique, tu vas diffuser en écrit, sur un site internet, l'interview d'un confrère, donc Frédéric Brindel, hein, qui était un petit peu le monsieur loyal donc, de cette matinée.
Tout à fait, on a échangé avec Frédéric Brindel, et c'était vraiment très intéressant. Et donc, ce sera diffusé sur mon site Tendance Sport.
Voilà, parce qu'il était tellement bavard, Frédéric, il avait tellement de choses à dire que ça valait bien de page.
C'était extrêmement intéressant. Et puis, de par sa grande carrière, lui qui a parlé de plusieurs Jeux Olympiques, lui qui a été journaliste sur plusieurs Jeux Olympiques, ça permettait vraiment d'avoir un très bel éclairage sur les questions que je lui ai posées.
Allez, on va écouter la deuxième pause musicale, c'est Dire Straits, Walk of Like. Et puis ensuite, eh bien, on va passer à la rubrique foot, mais puis aussi au journal des sports. Il a plein de choses à nous raconter, donc Alexandre. Allez, la deuxième pause musicale. Marche de la vie, eh bien, lui le fait, c'est notre ami donc, Alexandre. Avant de retrouver donc Stéphane au téléphone, il va nous faire un copieux menu du journal des sports, comme d'habitude. On va commencer, c'est normal, il a passé toute la semaine là-bas, on va commencer par Roland Garros, Alexandre.
Absolument, Philippe.
Et des infos en live.
Des infos en live, je vais d'abord faire le petit bilan de cette première semaine. On a eu droit à des beaux matchs et des surprises. La plus grosse de toutes, c'est bien évidemment l'élimination de Rafael Nadal pour son dernier Roland Garros dès les 32e de finale contre Zverev. On retiendra également la victoire de Stan Wawrinka contre l'anglais Andy Murray, toujours à ce stade de la compétition.
Des revenants,
oui, parce que c'était les grands noms de l'époque. Et malheureusement pour nos Français, la malchance perdure puisqu'aucun ne s'est qualifié pour les quarts de finale. Corentin Moutet a perdu son match 3-1 contre l'Italien Jannik Sinner. Et Richard Gasquet, également fils, pour ne citer qu'eux, s'était déjà fait éliminer plus tôt dans la compétition. Grosse surprise aujourd'hui avec l'élimination de Medvedev qui a perdu son match face à l'Australien Desminor 3-7-1. On connaît désormais deux affiches des quarts de finale du tournoi, Tsitsipas contre Alcaraz et Dimitrov contre Sinner.
Des beaux matchs.
Des très beaux matchs. À noter qu'actuellement, Novak Djokovic joue contre l'Argentin Cerundolo Dolo et c'est un match très serré puisqu'il y a actuellement 2-7 partout. Taylor Fritz ainsi que Casper Ruud jouent également. Le match vient de commencer 0-0 pour l'instant. Dernier huitième de finale entre Zverev et Rune juste après l'émission à 20h50.
D'accord.
Chez les femmes, la logique est respectée puisque Swiatek, la numéro 1 mondiale, se retrouve en quart de finale contre la Tchèque Vondrousova, 5e mondiale. Coco Gauff, l'américaine, 3e mondiale, affrontera la Tunisienne Ons Jabeur, 9e mondiale. Et l'italienne Paolini, 15e mondiale, affrontera la Kazakh Rybakina, 4e mondiale.
Ouais, c'est fini aussi pour Caroline Garcia.
C'est fini malheureusement pour Caroline Garcia. C'est également fini, ça s'est fini aujourd'hui pour Varvara Gracheva, la française,
oui,
de 7-0. De 7-0 face à la russe Mira Andriva. On aura donc droit à un quart de finale 100% russe, Sabalenka 2e mondiale et Andriva 38e. Donc c'est une déception supplémentaire pour les françaises, sachant que dans la semaine un peu plus tôt, Chloé Paquet était également passée à la trappe contre la tchèque Vondrousova également.
Ouais. Malheureusement, ça devient une très 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 mauvaise habitude de ne plus avoir de françaises et français en deuxième semaine sur Roland-Garros. Hein.
Ah oui, c'est une mauvaise habitude qu'il faudra vite chasser.
41 ans qu'un français n'a pas gagné Roland-Garros. Par contre, on a eu Marie Pierre quand même, hein, en l'an 2000.
Ouais, donc rendez-vous demain pour le début de ces quarts de finale. Mmh. On change de sport, on va parler rugby maintenant.
Oui.
Le Stade Toulousain, après sa victoire en Coupe d'Europe, a été accroché par le Stade Rochelais 31-31. Les Toulousains sont quand même assurés de finir champions puisqu'ils sont 5 points devant le Stade Français qui a perdu son match du week-end face au Castres Olympique 27-18. Victoire sans appel pour Toulon, 52-10 face à Clermont. Les relégables sont l'Oyonnax Rugby et Montpellier. Lyon a assuré son maintien malgré sa défaite sur le terrain des Montpellierains 41-26. Et puis match important la semaine prochaine pour le Racing 92, 6e, qui jouera contre le Stade Rochelais, 5e. Un point seulement sépare les deux équipes.
Ouais, ça sera la dernière journée de la saison.
Dernière journée, c'est ça.
Après, on rentre dans les play-offs.
Exactement. Petit point sur le circuit mondial de rugby à 7 et la victoire de l'équipe de France en finale contre l'Argentine 19-5 avec un très bon Antoine Dupont. Les femmes, elles, malheureusement, ont perdu en finale contre l'Australie et décrochent la médaille d'argent.
Mais ça, c'est des chances de médaille pour les Jeux, justement. Hein.
Oui, c'est de très bons présages. Ouais. Très bons présages. Mmh. En basket, maintenant, on connaît désormais...
Allez Paris,
on connaît la finale des play-offs de Betclic Elite. Le Paris Basket, justement, a remporté sa demi-finale 3-2 contre l'Asvel. Et Monaco s'est également imposé face à Bourg-en-Bresse 3-1. Monaco-Paris, premier, deuxième, c'est un peu l'histoire cette saison, Philippe.
Ouais.
Et début de série demain à 18h30 sur le parquet des Monégasques, en direct sur la chaîne L'Équipe.
Ouais. Alors c'est vrai quand même que Monaco est favori. Hein.
Monaco reste favori parce qu'ils ont terminé premier de saison régulière, justement.
Ouais. Mais ce qui est fabuleux, c'est qu'on a vu le Paris Basket il y a 2 ans à ce micro et on voit la progression énorme que ce club
Dans seulement 2 années.
Ouais, en 2 ans, c'est fabuleux. Hein.
C'est super. Et handball maintenant, fin de la Star League. Ouais. Et toujours un club parisien, cette fois-ci c'est le PSG qui termine...
Après le foot, le hand.
Après le foot, c'est le hand champion de France, Paris. Un point devant les Nantais. Montpellier et Toulouse joueront également l'Europe. Mais la grande opération de cette semaine, Philippe, et à notre plus grand bonheur, c'est bien évidemment le maintien de nos clubs franciliens.
Oui, bah, ouf.
Ivry et Créteil, après un final incroyable. Ouais. Les deux clubs du 94 terminent à 16 points chacun. Un point seulement devant le Saran-Loiret qui finit 15e. C'est une bonne nouvelle donc pour le Val-de-Marne. Et Dijon ferme la marche et termine la saison avec 10 petits points. Mmh. Chez les femmes, la saison était terminée, mais il restait le club de Metz en Ligue des Champions. Et les Messines terminent malheureusement au pied du podium après avoir perdu le match pour la 3e place contre le club danois Desbjerg 37-33. Ouais. Ce sont les Hongroises de Győr qui ont remporté cette Ligue des Champions aux dépens des Allemandes de Bietigheim Game 30-24.
Bon, les filles ont compensé un petit peu le manque des hommes au foot. Voilà.
Ouais. Et puis en moto maintenant, on a eu droit au fameux Mugello, le Grand Prix d'Italie. Et c'est une belle victoire pour l'Italie puisque Ducati place 4 de ses pilotes au top de la course. Parmi eux, 2 Italiens, l'incontournable Francesco Bagnaia, bien sûr, qui termine premier, et Enea Bastianini qui finit, lui, 2e. Les Français Fabio Quartararo et Johan Zarco finissent respectivement 18e et 19e. Toujours en Italie, se déroulait ce week-end le rallye de Sardaigne et c'est l'Estonien Ottana qui s'est adjugé de cette course, suivi de près par le Français Sébastien Ogier et l'Espagnol Dani Sordo. Johan Rossel est le 2e français au classement et finit la course à la 7e place. Au général, sans surprise, c'est toujours le Belge Thierry Neuville qui mène, suivi par Ottanak et Elphine Evans. Sébastien Ogier et Adrien Fourmeau représentent bien la France puisqu'ils sont 4e et 5e. Et un petit point cyclisme pour finir ce journal, et la victoire de Mats Pedersen lors de la première étape du Dauphiné libéré. Le Danois récupère donc le maillot jaune. Le Français Hugo Page finit 3e, juste derrière Sam Bennett.
Très bien, effectivement, le Dauphiné est libéré, ça sert de répétition avant le Tour de France. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir.
Ouais,
bonsoir à toutes et à tous.
Ouais, alors quel lundi quand même, hein, donc on va naturellement y revenir. Alors ça y est, c'est fait, c'est officiel, l'info est tombée, Kylian Mbappé a bien signé pour 5 ans au Real Madrid.
Ouais, c'est surprenant, hein.
Bon, moi, pas trop quand même. Ouais.
Non, mais j'en rigole parce que...
Ouais, on sait.
C'est que de l'amusement médiatique. Maintenant, on sait depuis le mois de février qui partait. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je crois que c'était sa mère qui disait aux journalistes « Oui, mais vous le savez très bien et tout. » Mais bon, c'est comme ça, on vit dans un monde de médias, de communication. Alors, je suppose que demain, ça fera la une de tous les journaux.
Ouais, bien sûr.
Et puis voilà. Quoi. Maintenant, moi, personnellement, ça m'émeut pas plus que ça, puisqu'on savait. Quoi.
Ouais. Mais est-ce qu'on connaît un petit peu mieux les modalités quand même du transfert, Stéphane? C'est surtout ça qui est intéressant.
Bah, les
vu qu'il n'y a plus de suspense, 5 ans, ça c'est sûr.
Encore. est-ce qu'on connaît mieux ce qui se dit aujourd'hui, c'est que c'est 5 ans.
5 ans, c'est sûr.
De 100 millions, de 100 millions d'euros à la signature, un salaire de 15 millions d'euros par an. Mais je veux dire, l'histoire, le passé nous apprend qu'en fait, on ne peut jamais vraiment savoir. On dit que, qu'il a signé aux alentours du 21 février, ce qu'il a signé, il a toujours dit qu'il n'avait jamais signé, mais quelque part, on s'en fiche un petit peu, quoi. Je trouve que c'est des...
Enfin, c'est officiel maintenant, voilà, c'est officiel.
Voilà, c'est officiel, il va au Real Madrid, c'est officiel, tant mieux pour lui, puisque c'était son rêve à Kylian Mbappé, puis espérons que surtout que ça va faire du bien, de toute façon, à l'équipe de France, avec que tout va redevenir en ordre, qu'il va retrouver le niveau, la motivation, la compétitivité qu'il avait il y a encore un an. Quoi.
Alors en tout cas, il va dans le plus grand club du monde pour l'instant, hein, qui a remporté samedi sa 15e finale de Ligue des Champions, 2-0 devant Dortmund. J'allais dire dans un scénario classique, une équipe qui a beaucoup tremblé, qui a souffert, qui a été très longtemps au point de rupture, et puis qui en 20 minutes donc s'en est une nouvelle fois tiré.
Voilà, tout à fait. Bah, écoute, hein, c'est avant une époque. Aujourd'hui, le football, c'est un jeu qui joue à 11 contre 11 et à la fin, c'est le Real Madrid qui gagne.
C'est exactement ce qu'avait dit le confrère d'équipe. Hein. D'autant plus qu'on se rappelle de leur parcours. Hein. Il y a eu le quart de finale contre Manchester City où c'était l'égalité parfaite. Bon, le Real s'impose au tir au but. Contre le Bayern, c'est aussi en toute fin de match.
Même contre Leipzig, quand vous regardez contre Leipzig, c'était un peu compliqué. Ouais. Il y a eu quelques faits d'arbitrage. Il y a eu en tout cas un match retour. Très très moyen de la part des Madrilènes, mais ils s'en sont toujours sortis, donc il n'y a pas mieux à dire que ça. C'est comme les Allemands à une époque,
oui, et effectivement, ça, c'est ça. Ils savent gérer l'événement, ils savent et contre le Bayern, ils s'en étaient tirés au tout dernier moment, et là contre Dortmund, et Dieu sait si pourtant ils ont frôlé la correctionnelle, mais bon, ils sont là et remportent leur 15e Ligue des Champions. Voilà.
Voilà, c'est complètement mérité, parce que c'est complètement mérité à eux. Puis je pense que quelque chose me dit qu'on n'en a pas fini, parce que tout s'imbrique, quoi. C'est un club qui est monstrueux. Donc c'est vrai que les joueurs, les grands joueurs, ont envie d'aller dans ce qu'on peut comprendre, qu'aujourd'hui, si on te propose, je pense par exemple, même si apparemment ils hésitent beaucoup aux Lillois, les Lilloraux, quand si on te propose d'un côté le Real Madrid, de l'autre côté le Paris Saint-Germain, par exemple, c'est vrai qu'on peut comprendre qu'aujourd'hui, on soit qu'on ait peut-être un peu plus envie d'aller au Real Madrid quand on est jeune, qu'on veut gagner des titres et tout.
C'est normal.
Après tout, c'est une machine infernale qui est en route. Et puis quand on est, vous savez, tous ceux qui ont fait du sport, ils le savent, hein, quand vous, à niveau pratiquement équivalent, quand vous êtes premier, vous affrontez le dernier, vous avez un avantage psychologique. Donc c'est une caricature que je dis, mais quand on est un club qui gagne tout le temps,
la culture de la gagne.
Quand on rentre sur le terrain, on a un avantage psychologique par rapport aux autres, quoi.
Alors, ça ferait une dizaine de joueurs français qui ont gagné, toute génération confondue, hein, la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Hein. Tous les plus grands l'ont gagné avec le Real. Hein. Benzema, Zidane,
Benzema,
entre autres.
Bien sûr, voilà. Zidane, évidemment. Puis bon, ceux qui sont actuellement...
Et puis Raymond Kopa. Pour les plus vieux.
Ouais, Raymond Kopa, effectivement. Non, c'est un club mythique. Alors, et après, il faut avoir... Pour les joueurs français, il faut avoir la chance de pouvoir aller y jouer, quoi.
Alors, si le Real a gagné sa 15e Ligue des Champions, il y a un pays qui a gagné sa première Coupe d'Europe, c'est la Grèce, hein, puisqu'ils se sont imposés dans la plus petite des Coupes d'Europe, hein, la Ligue Europa Conférence, contre la Fiorentina qui perd sa deuxième finale consécutive, 1-0 après prolongation.
Ouais, tout à fait, voilà. Alors, cette finale.
Ouais, c'était bien la finale des 6e, 7e, hein, Stéphane, hein, au niveau.
Ouais, exactement. Ouais. Puis bon, après, on peut en parler pendant longtemps. Mais vous savez, Philippe, qu'on parle souvent, notamment dans Au bout du foot, on parle souvent de la compétitivité des grands championnats et tout. Et moi, je suis un petit peu en opposition en disant que c'est pas forcément une question de niveau de championnat, mais c'est avant tout une question de culture, de culture européenne, hein, jouer ses coupes d'Europe, préparer ses grands rendez-vous et tout. Et puis voilà, donc l'Olympiakos, on va dire, a été le moins mauvais des deux, finale.
Ouais, le plus efficace, le plus réaliste, et puis voilà, quoi.
Ah
ouais.
Voilà, a fini par gagner, quoi, c'est tout. Donc moi, ça me confirme, en tout cas moi, dans mon dans mon analyse des faits qu'effectivement, bien sûr que c'est pas un hasard si certains championnats ont beaucoup plus de titres européens que d'autres. C'est pas complètement hasard, mais sinon ça sur le temps ça joue beaucoup sur le mental, la culture, l'habitude de la guerre. On l'a encore vu avec la finale, on en parlait il y a deux secondes, ouais, du Real Madrid.
Absolument.
Ça joue beaucoup, quoi.
Et c'est pour ça qu'on a gagné que deux Coupes d'Europe dans notre histoire, avec Marseille la Ligue des Champions et la défunte Coupe des Coupes avec Paris Saint-Germain, pour 15 finales perdues quand même. Pour 13 finales perdues, pardon, Stéphane, contre 15 disputées. Alors, on va rappeler aussi que les Allemands, du coup, perdent leurs deux finales cette année, hein, avec Leverkusen et puis Dortmund.
Voilà, exactement. À un moment donné, on disait que c'était un peu le foot allemand. C'est qui marchait sur l'eau, et puis voilà. Puis on a vu, il y a pas un championnat qui se distingue. Il y a aucune victoire pour aucun succès pour les clubs anglais, alors que c'est le meilleur championnat du monde. Il y a des clubs espagnols comme le Barça qui sont disparus finalement, et puis le Barça ou l'Atlético Madrid qui sont disparus, qui n'ont même pas atteint le dernier carré. Et donc ça veut dire qu'il y a plein de choses qui se passent en perpétuelle mutation, tout ça.
Alors d'ailleurs, pour parler des Coupes d'Europe, le prochain grand rendez-vous, c'est la Super Coupe d'Europe, la finale entre le Real et Bergame. Ça sera le 14 août pour la reprise de la saison, juste quelques jours avant la reprise de la Ligue 1, Ligue 2. Et auparavant, on aura le trophée des champions entre PSG et Monaco. Ça sera le 8 mai en Chine. Alors justement, autre fait marquant de cette journée, c'est la sélection, j'allais dire enfin, pour le tournoi olympique de Thierry Henry. Alors, Alexandre va nous rappeler les joueurs qui ont été présélectionnés. C'est 25 joueurs, hein, pour l'instant, Alexandre, qui ont été présélectionnés par Thierry Henry, qui a enfin pu quand même dégager une liste de noms.
Absolument. Donc, par contre, il y a des petits absents, des gros absents même. Oui. Je dirais, on pensait qu'il y allait avoir par exemple Kylian Mbappé. Malheureusement, je vous le dis déjà, il n'est pas dans la pré-liste, ni Antoine Griezmann, ni Hugo Lloris. Oui. Mais on va retrouver de Lucas Chevalier, Oben Cambadio, Guillaume Rest.
Ça, c'est dans les buts.
Ça, c'est dans les buts, bien sûr, les gardiens de but.
Il faut le préciser.
Oui. Lucas Chevalier, le gardien de Lille, Oben Cambadio, Guillaume Rest, Robin Rissier, Bafodé Diakité, Maxime Estève, Bradley Loco, Castello Luqueba, Kylian Sidilia.
Oui, mais ça, c'est pour les autres postes.
Il faut quand même le dire.
Après défenseur, donc. Pardon, excusez-moi. Il faut être complet.
Kylian Sidilia, Adrien Truffert, Lenny Yoro. Donc ça, c'est pour les défenseurs. Mm-hmm. Pour les milieux de terrain, Magnès Akliouche, Joris Chotard, Désiré Doué, Manu Koné, Enzo Mio, Kefren Thuram.
Ah, quand même.
Lesley Ugochukwu, Warren Zaïre Emery. Et pour les attaquants, Bradley Barcola, Arnaud Kalimuendo, Alexandre Lacazette, Jean-Philippe Mateta, Michael Olise et Mathis Tell.
Oui, alors Stéphane, il y a quand même Barcola et Zaïre Emery, ils vont enchaîner les deux compétitions.
C'est pour ça que je veux pas être trop virulent, mais pour moi, cette liste, elle a strictement aucun sens, aucun à voir. Je pense que c'est un aspect politique, ou c'est parce que il avait envie, Thierry Henry, de montrer. Je pense que c'est plus lui qui avait peut-être envie de montrer ce qu'il voulait, parce que sur cette liste de 25, franchement, selon moi, je donne rendez-vous le 3 juillet quand il y aura la liste définitive.
Oui, peut-être qu'ils vont enlever Barcola et puis Zaïre Emery. Hein.
Ouais, mais non, Zaïre Emery, Barcola, ils n'iront pas, c'est sûr.
Oui, ça c'est sûr, ouais, il va les emmener.
De toute façon, il n'y a aucun joueur qui joue l'Euro, qui va y aller. Les Lillois aussi ont fait savoir il n'y a pas longtemps qu'ils ne libéraient pas leurs joueurs. Il faut savoir que Lille va jouer le troisième tour préliminaire et le démarrage de la Ligue des Champions, ce qui équivaut quand même à plusieurs dizaines de millions en chiffres pour le club. Et donc Lenny Yoro va peut-être partir. Donc s'il va, je pense qu'il aille au Real ou au PSG. De toute façon, les deux clubs ne laisseront pas, ne laisseront très probablement pas partir. Et puis Chevalier, c'est la même chose. Diakité, très probablement. Rien que ça, les Rennais, c'était quand il y avait Florian Maurice, ils avaient dit qu'ils n'étaient pas trop enclins à laisser leurs joueurs. Il y a Truffert, Kalimuendo, Doué, qui sont quoi. Bref, je pense qu'il n'y a pas plus de. Il y aura peut-être plus de 14 joueurs, 15 joueurs, grand maximum de cette liste-là qui sera dans celle du 3 juillet. Comme il y a 18 joueurs, donc ça serait déjà pas mal. C'est pour ça que ça sera peut-être encore moins que ça, quoi. Et puis les clubs, les clubs qui avaient dit ouvertement qu'ils laissaient les joueurs, bah, il ne les a pas pris. C'est-à-dire, par exemple, Lens, pour. Je ne sais pas si Diouf, il est dans la liste. Je sais pas.
Non, il n'y a pas Diouf dans la liste. Non.
Ouais. Bah, Diouf, il n'y est pas. Wai, il n'y est pas.
Oui.
Sur le niveau, des, en tout cas, surtout de Wai, on peut effectivement comprendre. Mais en tout cas, il n'y est pas. Lyon a dit qu'il laisserait partir ses joueurs. La Cazette, qui est quasiment à 90%, 99%, qui a un pied en Arabie Saoudite au moment où on se parle. Je ne sais pas s'il va pas décider de préparer sa saison plutôt que d'aller au jeu. Cherki, bah, peut-être qu'il va revenir en deuxième semaine, entre guillemets, mais Cherki, il n'y est pas dans la liste. Donc, c'est vrai que moi, depuis le début, c'est triste à dire, mais depuis le début, là, de... Alexandre, tu dis oui, on voit qu'il n'y a pas.
Ni Griezmann, ni Mbappé.
Ouais. Moi, depuis le début, pour au moins sur le site, dans les articles, dans les commentaires et tout, j'ai toujours dit qu'il n'y aurait aucun joueur qui se réduirait. J'attends de voir, par exemple. Alors, peut-être qu'ils ont pris des accords, puisque apparemment, il n'y a pas mal Augusto parce que Chelsea a refusé. Donc, peut-être que Leipzig, par exemple, a donné son accord pour Luqueba, mais c'est quelque chose qui m'étonne énormément, quoi. Si Castello Luqueba a l'autorisation de son club de faire les Jeux Olympiques, quoi. Donc, pour moi, il est acculé par le temps, parce que le rendez-vous des Olympiques, c'est le 16 juin, hein, le début de la préparation.
Pour, oui, à Clairefontaine, avec trois matchs amicaux. Ouais, trois matchs amicaux avant le début du tournoi, le 24 juillet, voilà, pour l'équipe de France.
On est le 13, c'est-à-dire que c'est dans 13 jours. Quoi.
C'est ça.
Donc, dans 13 jours, il fallait bien, à un moment donné, qu'il donne une liste, quoi.
Bien sûr.
Est-ce qu'il a eu des actes Là, on a vu pour Chelsea, c'était le cas. Alors, peut-être, effectivement, est-ce qu'il a eu les accords Crystal Palace, par exemple, Mateta et Olise, c'est quand même les deux joueurs offensifs. Olise a été blessé, il est là sur la fin. Mais c'est quand même les principales forces offensives du club de Crystal Palace. Bon, le championnat n'a pas commencé, parce que je crois qu'il va commencer vers le 15 août. Alors, mais bon, ils peuvent effectivement laisser les joueurs partir. Maintenant, je suis très circonspect. Il y a des tournées, il y a plein de choses comme ça pour les clubs. Et c'est le vrai scandale, c'est que ça ne soit pas dans la liste, ou c'est pas au JO, ou c'est sur la liste officielle des compétitions protégées par l'UEFA, parce que sinon, c'est insensé. Quoi.
Il a dit lui-même qu'il avait... Il avait observé beaucoup de rejets. Hein,
ouais. Non, mais on le savait, il avait dit déjà en interview au mois de mars quand on l'avait donc interviewé. En tout cas, il passe pas dans la. Enfin, ça va être compliqué pour lui. Par contre, c'est un petit peu moins compliqué pour nos féminines hein, qui ont battu donc l'Angleterre 2-1 pour la qualification à l'Euro 2025 et qui prépare bien finalement cette phase finale du tournoi olympique de foot.
Meilleur. Tout à fait. Ouais. En plus, avec un scénario intéressant, avec des joueuses où certaines étaient blessées. Je crois que c'est le sommeur. Bon, c'est pas très joueuse. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a notamment dans ce match, il y a des joueuses importantes qui reviennent très bien. Il y a Wendy Renard, pour commencer, bien sûr, qui a été blessée. Bon, maintenant, ça remonte un petit peu, mais il y a pas si longtemps, quoi. Il y a encore un mois, je crois qu'il y a deux, trois mois, elle s'est fait opérer du pied. Donc, elle revient très bien. On l'a vu quand même avec Lyon et on le voit là avec l'équipe de France. Et puis, Marie-Antoinette Katoto, surtout, qui a longtemps été quand même, qui est peut-être la meilleure joueuse française actuellement, qui a une grosse blessure, les ligaments croisés, donc qui est revenu juste cette année, qui a peut-être pas encore, et puis visiblement là, on l'a vu avec le Paris Saint-Germain quand même dans les deux, trois derniers matchs, même si elle en a raté un ou deux parce qu'elle a été blessée aussi, avant la Coupe de France, mais la finale de la Coupe de France, elle l'a pas jouée, et là, elle revient bien, parce qu'elle a mis un super beau but hein, contre les Anglaises, et donc ça, c'est vrai que c'est de bonne c'est de bonne augure, parce qu'on peut faire confiance à Hervé Renard pour arriver à manager tout ça le mieux possible, donc c'est une bonne nouvelle.
En tout cas, c'est, ouais, pour l'instant, l'état d'esprit côté féminine français, c'est mieux que chez les hommes pour ce tournoi olympique. On va finir avec le match qui a clôturé la saison sur le plan national, le match de barrage, hein, Saint-Étienne qui avait battu Metz 2-1 au match aller, beaucoup plus déterminé, et qui, à l'issue d'un match foot, allait arracher le nul 2-2 après prolongation. Donc Saint-Étienne accompagnera Auxerre et Angers la saison prochaine en Ligue 1. A contrario, Metz, avec Lorient et puis Clermont, donc retrouve la Ligue 2.
Voilà, tout à fait. Sur le papier, en tout cas, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour oui. le football français de retrouver Saint-Étienne. Hein. On l'a vu là, son stade, ses supporters, tout ce que ça peut rapporter, les derbies avec Lyon. Quoi, je veux dire, ça apporte plein de choses. Ça apporte plein de choses hyper intéressantes pour le football français. Donc c'est vrai que c'est super. Maintenant, attendons quand même aussi de voir ce qui va se passer pour Saint-Étienne, qui vient d'être acheté.
Oui, c'est officiel aussi aujourd'hui.
Ceux qui ont vu les matchs sont d'accord, je pense, tous pour dire que tu as à peine, même pas un tiers de l'équipe qui a le niveau de la Ligue 1. Quoi. Donc, ça va être, et puis, comme ils n'ont pas l'intention, je pense, les acheteurs de mettre des millions dans les transferts tout de suite, ça va être un maintien qui va être visé, à mon avis, la saison prochaine. Et donc, ça va être un peu chaud. Mais en tout cas, sur le fait, c'est quand même bien qu'une équipe comme Saint-Étienne, comme on attend Bordeaux, qui pourrait essayer de revenir. Et c'est bien d'avoir tous ces grands clubs qui sont, même à l'avenir, Sochaux, par exemple, qui sont des grands clubs français qui méritent de jouer en Ligue 1. Quoi.
Très bien. Stéphane, merci. À la semaine prochaine, hein, on va passer bientôt en configuration Euro, donc on fera un spécial Euro, on parlera un petit peu des groupes qui arrivent. Voilà, merci en tout cas Stéphane.
Bonne soirée à tout le monde.
Voilà, bonne soirée Stéphane.
Bonne
soirée.
Et puis le foot, il continue avec donc Malik et toute son équipe au bout du foot dans quelques minutes. Très brièvement, où en est la flamme olympique, Vanessa?
Alors, la flamme olympique, minutes, aujourd'hui, hein. Elle prend un peu de repos et demain, elle sera au Sable d'Olonne. Je vais vous donner quelques petites infos sur son parcours la semaine dernière. Elle est passée à Angers, notamment par le stade Josette et Roger Mikulak, le temple de l'athlétisme angevin, et qui est aussi centre préparation des Jeux. Elle est passée sur différents endroits d'Angers, au Quai, qui est un lieu culturel, et au Cœur de Maine, qui est un lieu de vie. Il y a eu plusieurs relayeurs, il y a eu notamment aussi une parade équestre. Elle a été portée par donc, des cavaliers. Et puis... Elle a aussi été allumée sur le site de Rochefoucauld par Thomas Joly, hein, le directeur artistique des quatre cérémonies d'ouverture et de clôture donc des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. Et puis, on a eu plusieurs porteurs de la flamme. Aminou Maïga, ancien joueur de foot et qui a été décoré du meilleur apprenti de France en couture. Anne Boileau et Patrick Schilla qui ont échangé en fait qui ont fait une partie de ping-pong et Anne Boileau avait la flamme à la main. Et puis également Nicolas Touzin, un grand cavalier français. Ouais. Elle est également passée en Bretagne, à Rennes, par la forêt de Brocéliande, cette mythique forêt de Brocéliande à Saint-Malo. Et c'est Perle Bouge, notre rameuse championne paralympique, qui a allumé le chaudron. Il y a eu un concert. Il y a eu différents porteurs, dont Anne-Laure Villard, en bronze à Pékin en kayak, Agnès Leroux en paracanoë, et puis également Charles Jiquel, le recordman du saut en hauteur, et Lénaïg Corson qui fait du rugby à 7, ainsi que Romain Danzé, un ex-joueur de foot. Et puis elle est passée également par la Normandie, à Omaha Beach, Cabourg, Honfleur, Caen.
C'est bientôt le débarquement.
Et c'est voilà, 80e anniversaire bientôt. Ouais. Voilà.
Juste un petit mot, 30 secondes pour vos créneaux et ensuite on termine cette émission.
Oui, on voulait rappeler que depuis cette saison, pour encourager la participation et l'inscription des femmes au badminton, on a mis en place des créneaux féminins, donc réservés aux femmes une fois par mois. On a fait ça avec les 5 assos sœurs parisiens.
Très bien. Eh bien, écoutez, merci. Merci. Merci à Jason et puis beaucoup. Donc à Léonard d'avoir été une nouvelle fois brillamment aux manettes au cours de cette 90e émission. La semaine dernière, on avait fini avec Claude Nougaro au Toulouse pour fêter la victoire de Toulouse en Coupe d'Europe de rugby. Eh bien là, on finit avec Julio Iglesias, un ancien joueur du Real Madrid, pour fêter le 15e succès du Real. C'est aimer la vie, tout simplement. Belle soirée à toutes et à tous et rendez-vous la semaine prochaine. Merci pour tout.
Très bonne soirée. Bonne soirée.
Les cieux ne manquent pas de charme, mais je préfère le plaisir, les joies, les larmes de notre terre. Les vents verts, les yeux brillants des jolies femmes. La vie c'est plus pétillant que les champagnes. La haute hydroaco que la pomme, mais c'est le diable. Mais le vieux plancher des hommes, c'est formidable. Et j'ai dans l'éternité son silence pour un pauvre jour d'été de mes vacances. C'est permis d'aimer la vie et d'aimer l'amour, d'aimer la nuit, d'aimer les jours, et de penser que c'est trop court, bien trop court. J'ai envie de rattraper le temps qui court, de vivre à fond, de vivre pour aimer la vie, aimer l'amour. La vie c'est l'éternel miracle, la seule chance. Chaque jour le grand spectacle qui recommence. J'applaudis, je dis chapeau au grand artiste qui dessine les tableaux qui existent. Les vents viennent, les yeux brillants des jolies femmes. La vie c'est plus pétillant que les champagnes. C'est permis d'aimer la vie et d'aimer l'amour, d'aimer la nuit, d'aimer les jours, et de penser que c'est trop court, bien trop court. J'ai envie de rattraper le temps qui court, de vivre à fond, de vivre pour aimer la vie, aimer l'amour. C'est permis d'aimer la vie et d'aimer l'amour, d'aimer la nuit, d'aimer les jours, et de penser que c'est trop court, bien trop court.